Bel après-midi avec Olivier Delacroix, il est 15h.
15h, 16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes le mardi 11 décembre et nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h, ma chère Ombline.
Oui,
je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour. Vous êtes aussi ravi vous aussi?
Ah bah, je suis toujours, on est très heureux
un
d'être là avec
vous. Un petit peu enrhumé tous les deux.
Vous voyez comment on est courageux.
Oui. Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. On en a fait parfois un projet de vie, tenir à deux un restaurant, racheter l'entreprise familiale de ses parents, aider son père à faire tourner l'atelier. 60% des entreprises françaises sont familiales. Travailler en famille semble avoir autant d'avantages que d'inconvénients. Il existe de nombreuses recommandations pour gérer au mieux le relationnel et pour apprendre à séparer vie privée et vie professionnelle. Définir le rôle de chacun en fonction de ses compétences et non de son rang familial. Accepter les compromis. Laisser le travail derrière soi une fois qu'on est rentré à la maison. Travailler en famille, finalement, cela semble être tout un art. Alors, travailler en famille, pour le meilleur ou pour le pire, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Il faut venir nous raconter votre histoire au 39 21 50 centimes la minute. Vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, bien sûr.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Marine sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Marine.
Bonjour.
Quel âge avez-vous Marine et d'où nous appelez-vous?
Alors, je vous appelle de Lille et j'ai 29 ans.
D'accord. Alors vous, Marine, en 2015, vous avez quitté votre travail pour ouvrir votre propre salon de thé. D'abord, qu'est-ce qui a motivé ce choix à cet âge-là, en 2015?
Alors, j'avais envie de faire quelque chose par moi-même et ça a été un choix d'autant plus difficile qu'en fait, déjà à l'époque, je travaillais pour l'entreprise de ma maman.
D'accord.
Donc, qui faisait quoi? C'était la première entreprise familiale. Elle a une agence immobilière.
D'accord. Donc, rien à voir avec le thé, les petits gâteaux et tout ça?
Non, absolument.
D'accord.
Rien.
Ok. Et donc, il est venu d'où, ce projet-là?
Ce projet, il est venu en fait d'une histoire de couple, puisque ouais. Quand j'ai rencontré mon mari Alexandre, on avait plaisanté sur le fait d'ouvrir un jour un restaurant, et finalement, on a ouvert un salon de thé.
D'accord. À l'époque, donc, Alexandre, lui, il y avait pensé dès le départ, ou c'était quelque chose qui est venu comme ça,
non,
progressivement?
C'était vraiment quelque chose qui est parti d'une plaisanterie en fait, et puis ouais. Finalement on s'est rendu compte que ça pouvait être une belle aventure à vivre à deux, et puis on s'est lancé un peu comme ça, pour être tout à fait honnête, et finalement ça va faire 4 ans donc
alors voilà. Justement, pour avoir eu l'occasion moi-même d'ouvrir un bar un jour, je sais que c'est une sacrée aventure de créer, surtout dans les métiers de bouche comme ça, on est confronté à tout un tas de contraintes. Est-ce que finalement quand on se lance dans ce type d'aventure à deux, avec son compagnon, c'est mieux, on se sent plus soutenu?
Alors, c'est bien parce que justement, quand on commence, je pense, à préparer un projet, c'est une période de la vie qui est extrêmement floue. On est vraiment sur quelque chose qui n'est pas encore concret, notamment avant l'ouverture. Mmh. Et c'est justement très important, en tout cas ça l'a été pour moi, d'avoir un entourage très proche et qui avait du coup un regard extérieur. Et surtout, c'était des gens sur qui je pouvais compter et sur qui je pouvais me fier. À partir du moment où on travaille avec ses parents ou avec son conjoint, on a quasiment l'assurance, en tout cas, que la personne en face est bienveillante et qu'elle va oser dire ou prévenir quand on part un peu dans des mauvaises directions, tout ça. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été un avantage.
Mais au début, vous étiez toute seule quand même dans ce projet. Alexandre, il est intervenu à quel moment exactement, au bout de combien de temps?
Alors, au tout début, effectivement, j'étais toute seule. On a mis 9 mois avant d'ouvrir le salon de thé. Et Alexandre s'est vraiment impliqué dans l'aventure, je veux dire, peut-être 1 ou 2 mois après l'ouverture, quand il commençait vraiment à y avoir beaucoup trop de demandes pour que je puisse la gérer toute seule. Mmh. Mais en parallèle, ma maman avait déjà donné beaucoup, beaucoup de son temps pour permettre l'ouverture et pour permettre de tenir jusqu'aux premières embauches. Donc, ça a vraiment été une histoire à trois, en fait, ce début d'aventure.
Alors justement, nous avons aussi Alexandre qui est en ligne avec nous. Bonjour Alexandre, soyez bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous êtes là?
Bonjour.
Bonjour.
Je suis là.
Alexandre, vous faisiez quoi avant donc de voir...
Je fais encore, en fait, c'est ça la particularité.
D'accord.
En fait, j'ai une agence de communication depuis 12 ans.
D'accord.
Donc, je continue à exercer ce métier. Mmh. Et moi, j'avais juste aidé au préalable Marine dans l'impertinente, dans le business plan, pour lancer l'activité.
D'accord.
Et en fait, on a été un peu dépassé par l'ampleur que ça a pris au bout de 6 mois. Parce que dans nos plus grands rêves, on aurait embauché 3 personnes au maximum. Là, on est 10.
Ah oui,
en
d'accord.
Faisant que des gâteaux, ouais. Ça a pris des proportions assez hallucinantes. Donc, ouais. il a fallu recruter, il a fallu former, il a fallu structurer surtout, gérer aussi le quotidien de couple. Ouais. Et tout ça, c'est une force qu'on a, c'est de travailler en couple, en fait. Je pense que c'est un peu le thème de votre émission.
C'est le thème de ouais, en famille, hein, le couple, mais en famille aussi. Et justement, on va aborder ça ensuite quand on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on laisse, justement, une fois qu'on a passé la journée. Vous êtes tous les jours au Salon de Thé, quand même ?
Non, plus maintenant. Plus maintenant. Les 2 premières années, pour être légitime et savoir de quoi on parlait, et embaucher les bonnes personnes et savoir de ce qu'on allait faire, on y était quasiment quotidiennement.
Ouais.
Moi, j'avais mis un peu entre parenthèses mon activité principale. Mmh. Et depuis un an, j'y suis beaucoup moins. Je suis beaucoup plus en coulisses.
Ouais.
Marine y est tous les jours... À Lille, elle est tous les jours au laboratoire de production, mais on a pris un peu de recul aussi maintenant, surtout moi.
C'est quand même une sacrée aventure dans laquelle vous vous êtes lancé. Vous n'avez pas eu peur de d'ébranler un peu votre couple, parce que on sait que voilà, quand on est dans la partie, vous savez, qui est grisante, celle de où on s'imagine le matin passer le balai devant le pas de son petit commerce avec la rosée du matin, mais on sait vite que quand on s'est lancé dans ce type d'aventure, on sait que voilà, les problèmes arrivent souvent, les contraintes arrivent, et que ça peut ébranler le couple. Vous n'avez pas eu peur de ça ?
Ben non, parce qu'en fait, on était très naïfs.
Ah.
Très, très naïfs. Et que j'aime, et je pense que si on avait su, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait forcément fait, en tout cas pas de la même manière.
Alors.
C'est-à-dire que l'avantage et l'inconvénient qu'on a, c'est qu'ayant une agence de communication, faire parler de soi, ce n'est pas très compliqué en tant que tel. Donc ça a pris des proportions assez dingues jusqu'à... Marine est passée à TF1 aux 20h dans une émission, enfin sur J'ai le boulot, il y a beaucoup de médias de couverture presse, donc ça a pris des proportions parfois assez dingues, et on ne savait pas ce qui allait arriver. On était totalement innocents, naïfs, on ne comprenait pas, et si ça a forcément ébranlé le couple...
Alors justement Alexandre, on va marquer une petite pause et puis on va justement reparler de tout ça dans quelques instants.
Europe 1.
Quelles sont les clés du succès lorsqu'on travaille en famille ? Vous nous racontez votre histoire et votre parcours au 39-21. Et puis vous réagissez bien sûr via le groupe de l'émission créé pour vous sur la page Facebook d'Europe 1. Comment arriver à mélanger famille et travail et faire de cette collaboration professionnelle avec l'un de ses proches une réussite ? 39-21 pour nous appeler et vous raconter votre expérience, Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours en ligne avec Alexandre et Marine qui nous expliquaient s'être lancés dans cette aventure, la création d'un salon de thé. Un petit salon de thé, Alexandre, hein, au début, 2-3 personnes, quelque chose finalement à dimension humaine. 10 employés au bout d'un moment. Vous dites avoir été ébranlé. De quelle manière le couple a-t-il été ébranlé et à quel moment ?
Parce que forcément, quand ça monte en puissance aussi rapidement et qu'on n'est pas du métier, qu'on n'a pas les codes et qu'on ne connaît rien concrètement au sujet, tout arrive d'un coup et vous retrouvez à faire des journées de 7h à 23h, 7 jours sur 7. On a l'impression d'avoir le temps de rien faire, de ne pas comprendre ce qui vous arrive, tout en devant gérer ce qu'on appelle le succès.
Oui.
Décevoir personne, parce que plus on parle de vous, plus il faut assurer derrière.
Mmh.
Et donc forcément, on a eu des moments un peu durs, où on se demandait dans quoi on s'était embarqué, où je pense on peut le dire, on a frôlé le burn-out ou le divorce plusieurs fois en 2 ans. Mais,
à cause de la pression particulière liée à ces métiers de bouche, hein, où il ne faut jamais décevoir, où la réputation tient pratiquement à chaque service, hein, où on est...
À chaque service, et c'est vraiment, entre guillemets, le j'aime pas trop le mot, mais c'est le buzz qui est autour de nous, qui a été notre meilleur atout et notre plus gros problème aussi. C'est que...
Alors expliquez-moi ça, parce que j'ai du mal à comprendre ça, parce que c'est un avantage, comme vous l'avez dit, mais ça semble avoir été quelque chose c'est un peu un poison entre vous. De quelle manière ?
Pas forcément entre nous, mais c'est par rapport à l'approche qu'on a eue, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de nous, et plus on parle de vous, plus les gens ont attente élevée.
Mmh.
Donc ils s'attendent à avoir un haut niveau de service, à avoir des gâteaux parfaits, et donc forcément, au quotidien, il faut assurer cette envie et cette demande. Mmh. Donc, parce que sinon, on vous reproche de ne faire que du marketing ou de ne faire que de la com, alors que ça va bien au-delà de ça.
Vous vous êtes senti dépassé l'un ou l'autre dans cette aventure ?
On s'est senti parfois dépassé, mais on a eu une chance assez folle, c'est qu'on s'est bien entouré et que ça a très vite marché là-dessus. C'est-à-dire qu'on a compris qu'il fallait déléguer, qu'on ne pouvait pas être partout, mmh. et qu'il fallait mettre les gens où ils avaient une plus-value et où nous, on avait une plus-value. Mmh. Typiquement, j'ai aucune plus-value au service. Oui. Marine n'a pas de plus-value en comptabilité. Donc, on est vraiment chacun sur un domaine et on a appris à travailler ensemble vers un même but, en fait. Mmh. Et pas être partout à la fois.
Mmh. Et vous parlez donc de friction à la maison. Ça concernait quoi, en fait, finalement ? C'était la pression ? C'était la fatigue, c'était finalement le tout. Comment vous résumeriez les moments où ça a été compliqué ? Parce que vous semblez aujourd'hui avoir passé le moment critique. Donc vous semblez avoir du recul par rapport à tout ça.
On a du recul parce qu'on a compris de nos erreurs. En fait, au départ, vous voulez être partout. Vous voulez tout comprendre. Et puis c'est ça qui posait problème, c'est que ça finit par fatiguer. Et aussi, à la fin, vous devenez en fait des collègues. Mmh. C'est ça le plus grand risque, c'est de toujours parler de travail, de ne vivre que pour le travail, de ne faire que ça. Et à la fin, on s'est dit, mais en fait, on est en train de devenir soit des colocataires, soit des collègues, donc il faut absolument qu'on devienne un couple.
Mmh. Alors justement, Marine, comment vous avez vécu cette pression et tout ce dont parle Alexandre ? Est-ce que ça a été difficile pour vous de délimiter vie professionnelle et vie personnelle et finalement, le soir, d'avoir du mal à ne pas parler de boulot à la maison ?
Oui, ça c'est toujours un peu compliqué. C'est dit, là, je viens d'apprendre qu'on avait frôlé le divorce. Donc voilà, mais non, moi, je n'ai pas forcément vécu exactement de la même façon qu'Alexandre. On n'a pas forcément la même façon de réagir justement à la pression. J'ai plus de facilité, je pense, que lui à faire la part des choses entre la vie professionnelle et l'intimité, en fait. Mais je vous dis, je l'avais déjà vécu, moi, auparavant, en travaillant pour ma maman. Mmh. Et donc, forcément, les situations qui sont compliquées dans le travail, même si elles ont une incidence sur la façon dont on va se parler le reste du temps, notamment à la maison, ça reste toujours avec bienveillance finalement et ça se passe quand même plutôt bien grâce à ça. On l'a pas vraiment vécu de la même façon. Là, je pense que on a trouvé un bon rythme maintenant qui correspond plus à Alexandre, mais voilà. Après, ça dépend vraiment des personnes. Je pense que c'est pas tout le monde le vit très différemment. Il n'y a pas de recette magique.
Bon, en tout cas. La période critique est passée, hein, puisque on entendait Alexandre et puis on l'entend dans vos mots aussi. La période critique est passée. Vous avez maintenant 3 ans. Le bilan paraît bon. Ça va, tout va bien aujourd'hui. Vous sentez que vous êtes sur un rythme de croisière.
Oui.
C'est mieux, c'est plus confortable.
C'est beaucoup plus confortable et c'est également beaucoup plus confortable parce qu'on arrive justement à prendre beaucoup plus de recul qu'avant, notamment parce qu'on a une très bonne équipe qui nous épaule au quotidien et c'est quand même très important, je pense, d'inclure d'autres personnes dans la boucle, finalement. Que ça ne reste pas uniquement familial ou uniquement une histoire de couple. Mmh. Ça permet aussi de prendre du recul au quotidien, de travailler, c'est ça, avec des gens de l'extérieur qui vous mettent un petit peu les yeux en face des trous quand il faut.
Bon, c'est très bien tout ça. Ombline me demandait où vous étiez, parce qu'elle aime beaucoup les gâteaux.
Située. Elle est où, votre boutique ?
Votre boutique, parce que quand on sera de passage avec Europe 1 à Lille, on viendra vous voir.
Bien sûr. Donc, elle se situe à Lille. Ça s'appelle L'Impertinente. Ouais. Et c'est le numéro 9, boulevard Papin.
Eh bien, écoutez, vous pouvez être sûr que vous nous verrez un de ces jours débouler pour goûter vos excellents gâteaux. Mille merci, Alexandre et Marine, de votre appel et de votre témoignage au 3921. Dans quelques instants, nous allons accueillir Christian Lujan. Il est psychosociologue clinicien et a travaillé sur les rapports entre psychanalystes et travail.
On a Julien qui témoigne au 39-21. Julien a 36 ans. J'ai monté une entreprise de conseil avec mon frère. La clé, c'est établir des règles, des réunions le samedi, le soir, ok, mais au bureau, jamais à la maison. Et l'affect ne doit surtout pas empiéter sur le cadre du travail.
Europe 1.
Vous vous reconnaissez dans ce que vit Marine et Alexandre. Julien également qui nous a appelé au 39-21. Vous nous racontez à votre tour le travail en famille. Vous conseillez ou au contraire, c'est une mauvaise idée. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre beau-père père est votre patron, votre sœur est votre collègue ou votre mari est votre associé. Est-ce que c'est facile de travailler en famille? Surtout, est-ce que c'est une bonne idée? Vous racontez votre histoire à Olivier Delacroix au 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Christian Lujan, psychosociologue, le clinicien. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour. Alors, la famille, lorsqu'on en parle, hein, elle est censée représenter normalement la stabilité, les repères, tout un tas de valeurs qui devraient faire que lorsqu'on décide de travailler en famille, ça devrait être une aventure professionnelle extraordinaire. Mais est-ce que ça n'est pas dangereux finalement de se lancer dans une aventure familiale comme ça, professionnelle?
Et quand on regarde la réalité aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, plus de 60% d'entreprises, à mon avis, sont plus... sont des équipes familiales, donc sans doute que le modèle ne fonctionne pas si mal que ça. Mmh. Simplement, travailler en famille, comme d'ailleurs l'exemple de tout à l'heure avec Alexandre et Marine était relativement éclairant, on voit bien que c'est d'abord une histoire individuelle qui se conjugue à une histoire collective. Et il se trouve que là, en l'occurrence, en ce qui concerne Marine, et Alexandre, dans ce que j'ai cru comprendre, dans tous les cas, ça s'est passé un peu en deux temps. Il y a eu un temps de gestation et Alexandre est venu s'inscrire dans un deuxième temps. Et peut-être, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la complémentarité qui s'est rapidement mis en place. Mmh. Et puis, la vie continue, quoi. Dans ce que j'ai cru comprendre également, c'est quand Alexandre évoquait qu'il y a eu quand même des moments difficiles parfois, il a même évoqué la question du divorce, on a bien vu que la perception de chacun sur ce vécu n'était pas forcément de même nature. Donc, évidemment, la question des histoires individuelles, histoire personnelle, qui se conjuguent entre elles, ben, chacun traîne un peu son histoire de famille. Et quand la famille est liée au terrain professionnel, je voudrais éviter la confusion des genres.
C'est ce que j'allais vous poser comme question, Christian Lujan, parce que vous parlez de ce 60% des entreprises en France qui sont familiales. Mais est-ce que ça n'est pas une obligation pour une grande partie de ces 60% à travailler en famille, justement? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que dans ces 60% d'entreprises, eh bien, je dirais, le frère est obligé de travailler avec le frère et puis la femme du frère vient travailler. Enfin, vous voyez, est-ce que c'est pas par tradition et que finalement, on se retrouve avec ce chiffre qui est différent d'ailleurs de celui des États-Unis où on a 80% des entreprises qui sont familiales?
Oui, il y a parfois des raisons purement économiques qui poussent à trouver des solutions de ce type. Après, je pose quand même la question de la place de chacun dans cette construction d'entreprise. Et parfois, les problèmes commencent où justement les logiques de reconnaissance, les positionnements, les rôles, les jeux de pouvoir ne sont pas parfaitement ajustés.
Ouais.
Donc, voilà. Qui a le leadership? Comment le cheminement s'orchestre? Et surtout, est-ce que chacun y retrouve ses investissements?
Quelles règles faut-il respecter, vraiment les règles de base, lorsqu'on est dans une entreprise familiale? Quelles recommandations vous feriez pour que ça se passe bien à coup sûr? Vous venez de parler de leadership, par exemple. Est-ce que ce leadership, il doit être clair et net? Et est-ce que c'est la règle, déjà, la première règle qu'il faut respecter?
Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait une clarification des rôles, effectivement, et des positionnements de chacun. On a des entreprises familiales qui font le choix d'avoir un dirigeant qui n'est pas forcément dans la famille, mais extérieur à la famille. Dans une configuration de ce type, souvent, on va constater que le dirigeant en question fait aussi également l'URAP qui ne fait pas partie de la famille. Donc, ce qui veut dire que les relations ne sont pas toujours si faciles que cela, quoi.
Christian Lujan, vous restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes psychosociologue clinicien et que vous avez travaillé sur les rapports entre psychanalyse et travail. Dans quelques instants, nous serons avec Aurélie. Dès son plus jeune âge, elle a aidé ses parents dans leur restaurant.
Europe 1.
Le travail en famille, un projet qui peut tourner mal ou au contraire, ça se passe très bien de votre côté. Vous êtes passé par là, venez discuter avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Appelez-nous le 3921. Vous ne jurez que par le travail en famille, où selon vous la frontière entre la vie professionnelle et la vie familiale ne doit pas être franchie. Vous nous racontez votre expérience au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Aurélie. Aurélie, bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci, bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Aurélie ?
J'ai 25 ans, je vous appelle de Paris.
De Paris. Alors, vos parents ont longtemps tenu un restaurant. Dès l'âge de 10 ans, vous aimiez passer du temps là-bas avec votre père, car vous aimiez jouer à la marchande, normal quand on est toute petite comme ça. Le vrai travail a commencé lorsque vous aviez 16 ou 17 ans. Que faisiez-vous au cœur de ce restaurant ?
Oui, alors pour resituer un peu, mes parents ont toujours travaillé ensemble.
Oui.
Donc quand ils se sont mis à leur compte, ils s'arrangeaient toujours pour pouvoir se libérer, pour moi et ma sœur, pour venir nous chercher, se libérer le soir. Mm-hmm. Alors quand c'est souvent mon père qui faisait la fermeture, donc c'est vrai que le week-end, en étant petite, je m'arrangeais toujours pour venir le dimanche au bar et puis pouvoir l'aider, puis voir un petit peu en quoi consistait son travail et puis pour mm-hmm. passer du temps avec lui. Mm-hmm. Et puis après, en étant un peu plus âgée, je venais les aider, que ce soit au service, en salle, au bar, je tenais la caisse. Ouais, sur le week-end ou bien pendant les vacances scolaires.
On sait que la restauration, c'est un commerce très envahissant. Hein. Vous dites que les enfants de ce type de commerce prennent l'habitude très rapidement d'aider leurs parents, même de façon épisodique. Vous dites que cela peut être même culpabilisant de leur dire non. Qu'entendez-vous par là exactement ?
Bah, comme vous dites à juste titre, c'est vrai que c'est un travail qui est très prenant. C'est un travail qui nécessite beaucoup d'heures, beaucoup de temps investi. Donc on ne voit pas toujours énormément de ses parents. Donc mm-hmm. quand on est en âge de pouvoir les aider, on le fait bien volontiers. Hein, ce n'est pas juste une question d'argent.
Ouais.
Et quand parfois, bon, il arrive qu'un jeune n'ait pas toujours envie de se lever un samedi matin pour aller travailler. Hein. Mm-hmm. Donc du coup, ça m'est arrivé de ne pas y aller, de ne pas toujours les prévenir. Et puis, mes parents, quand j'arrivais à me libérer, ça leur permettait, après le service, de pouvoir se retrouver, de pouvoir déjeuner mm-hmm. et de ne pas être continuellement obligé de se lever pour servir les clients. Mm-hmm. Donc voilà, donc, quand je ne venais pas, c'est sûr que c'était un petit peu culpabilisant.
Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir travaillé en famille comme ça a eu des répercussions sur votre vie de famille, sur la femme que vous êtes aujourd'hui, les valeurs que vous portez aujourd'hui ?
Ah oui, bien sûr, ça prend beaucoup de valeurs, que ce soit pour le travail, des valeurs voilà, de courage. Nous, ça nous a, moi et ma sœur en tout cas, appris énormément de choses, déjà d'être beaucoup plus sociable, d'être plus avenante. Et puis, dans notre vie de tous les jours, bien sûr, ça nous a beaucoup aidé. Après, évidemment, les rapports changent. Hein, quand on travaille avec ses parents, on ne s'adresse pas à un père ou à une mère comme on s'adresse à son patron. Mmh. Donc, c'est vrai que parfois, les caractères des uns et des autres s'entrechoquent un peu. Mmh. Et pendant un service, il peut y avoir des services un peu compliqués, justement pour ces raisons-là. Quoi.
Est-ce que ça change la relation ou ça la renforce, finalement ? Quels souvenirs vous en gardez ?
Quand on est jeune, on se rend pas compte de beaucoup de choses. Donc quand les parents ils rentrent à la maison, ils sont fatigués, ils sont pas très enclins à la discussion. Mm-hmm. Quand on est petit, on le comprend pas toujours. Mais en grandissant, en les aidant et en venant travailler avec eux, on comprend voilà qu'ils soient fatigués, que c'est un métier qui est difficile. Donc non, mm-hmm. moi en tout cas, ça m'a permis de bien comprendre quelles étaient les réalités de leur travail et puis d'être un peu plus indulgent.
Alors aujourd'hui, vos parents ont vendu leur commerce et vous avez un autre travail. Je crois que vous êtes journaliste. Hein. Travailler avec votre famille, si c'était à refaire, est-ce que c'est quelque chose que vous referiez ?
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Ouais.
C'est bien, c'est des moments de partage aussi tous ensemble. Ça nous permettait de nous retrouver.
Ouais.
Et puis, non, ce sera à refaire, bien sûr que... On le ferait volontiers. Mmh.
Christian Lujan, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes psychosociologue clinicien. Est-ce que certains enfants peuvent se sentir obligés de travailler en famille lorsque voilà, les parents font, je ne sais pas moi, métier de bouche, boulanger, boucher, les forains, vous voyez, tous ces métiers où au moment des fêtes, il faut en mettre un coup ou les week-ends, il faut travailler.
Ben là, vous faites référence un peu à la solidarité familiale nécessaire à des moments spécifiques. Mais tout à l'heure, vous évoquiez une autre notion, qui est peut-être la notion de culpabilité, voire de dépendance.
Oui.
Donc, c'est là peut-être les choses sont un tout petit peu plus complexes.
Pas facile de dire non. Pas facile de dire non, c'est ce que vous voulez dire ?
Absolument, hein. Voilà, tout à fait. Mmh. Donc, est-ce que l'investissement là correspond à un vrai choix, à une nécessité ou une obligation, quoi ? Voilà. Donc, derrière cette question d'obligation, entre les valeurs qui sont attendues au niveau familial, celles qui sont spécifiques à chacun, quels sont un peu les décalages par rapport à ça ? On voit que pour qu'un projet fonctionne, il faut qu'il y ait un minimum d'envie, il faut qu'il y ait du désir. Et quand effectivement on est sur un registre un peu différent, qui est plus sur le registre de la servitude, parfois subie, plutôt qu'elle soit consentie, ben là, on voit qu'évidemment, il y a peut-être des sources de souffrance possibles. Quoi.
Vous restez encore en ligne avec nous, Christian Lujan. Merci beaucoup, Aurélie, pour votre appel et pour votre témoignage au 3921. Dans quelques instants, nous accueillerons Jean-François. Alors lui, c'est différent. Il a repris l'entreprise, mais de sa belle famille. Et c'est un schéma plutôt intéressant.
Europe 1.
Recruter un membre de sa famille, lancer une affaire avec un proche. Vous êtes passé par là, vous nous racontez sur Europe 1 et vous nous dites pourquoi c'est une bonne ou une mauvaise idée au 3921. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter, hashtag Europe 1. Comment arriver à travailler en famille? Est-ce un atout de travailler avec ses proches ou au contraire, est-ce un risque? Vous échangez avec nous, vous nous racontez votre expérience au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes en ligne avec Jean-François. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Jean-François.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
52 ans, je vous appelle de proche banlieue parisienne sur le Blanc-Ménil.
D'accord. Alors, vous êtes, Jean-François, PDG de Tecmo Hygiène, l'entreprise de votre belle famille que vous avez repris. C'est une entreprise de quoi et c'était il y a combien de temps, cette reprise?
Alors, c'est une entreprise qui fait de la lutte antiparasitaire et de l'assainissement. Donc,
oui.
En clair, on traite des petites bébêtes qui vous ennuient et vos gros problèmes de fuite d'eau.
Oui.
Je l'ai reprise, j'y suis rentré en 2005 pour la reprendre en 2007, une fois que j'ai eu fait mes preuves dans ce secteur d'activité. Elle fait 250 personnes.
Est-ce que ça a été facile de faire ses preuves? Parce que est-ce que vous avez senti, parce que c'est le papa donc de votre femme qui était à la tête de cette entreprise?
Oui, alors en fait c'était même plus compliqué que ça puisque c'était son père qui était à la tête, qui était épaulé par ma belle-mère et mon épouse y travaillait. Donc vous voyez, au début on était très nombreux de la famille à y travailler.
Il n'y avait pas de frères et sœurs?
Non, enfin, en tout cas pas qui voulaient travailler dans l'entreprise.
D'accord.
La difficulté, elle était de deux titres. D'abord, je venais d'un monde qui était plutôt un monde très rationnel, qui était le monde anglo-saxon dans l'entreprise, où là, on arrive dans un monde très émotionnel, puisque vivre en couple, vivre en famille, c'est plus d'émotions que de politique de haut vol.
Oui.
Ça, c'était une des premières difficultés. La deuxième, c'est que les salariés, ils ont envie que vous soyez aussi bons, au moins, que l'ancien.
Oui.
Et à ce titre-là, il faut que vous fassiez vos preuves aussi bien vis-à-vis de ceux qui vont partir à un moment donné que ceux qui vous voient arriver parce que mon beau-père a dû reprendre lui-même l'entreprise à son beau-père en 1973. Donc, ils avaient pris quelques habitudes avec lui.
D'accord. Et comment ça s'est passé pour vous? Parce qu'on sait, par habitude, c'est toujours de la faute du patron. Vous voyez ce que je veux dire, ce truc. Il y a un problème, c'est toujours de la faute du patron. Comment ça s'est passé pour vous dans les premiers temps où vous avez repris l'entreprise?
Alors déjà, au tout début, j'ai fait mes preuves sur le terrain puisque j'ai été faire des interventions techniques et que j'ai été faire du commercial, comme les autres. Sans responsabilité, j'avais un titre ronflant, mais au quotidien, il fallait aller remporter des affaires et puis montrer que je comprenais ce que je vendais.
C'était important pour vous de montrer que vous faisiez le même boulot que les autres et la même chose et que vous saviez le faire.
Oui, tout à fait. C'était important et puis d'autre part, c'était aussi important pour comprendre un secteur dans lequel je connaissais absolument pas.
Dans les premiers mois, comment ça s'est passé parce que vos parents donc vous ont laissé la place. Est-ce que vous avez senti une certaine pression? Est-ce qu'on vous observait un peu encore? Par exemple, est-ce qu'ils se sont demandé s'ils vous faisaient vraiment un cadeau en vous laissant prendre cette place-là?
Alors, ils se sont posé la question, effectivement, de savoir si la société avait un avenir, si on pouvait la diriger. Est-ce qu'on était fait pour? Encore une fois, je venais d'un autre monde, donc le risque, c'est que la graisse ne prenne pas.
Oui.
Donc, effectivement, il y avait à la fois la crainte pour l'entreprise, pour les clients, et puis pour notre couple, parce que finalement, on était tous les deux embarqués dans la même barque.
Comment votre femme a-t-elle réagi lorsque tout ça a été vraiment en place, que vous alliez être à la tête de cette entreprise? Vous l'avez senti vous soutenir à 100%?
Alors en fait, j'ai inversé un peu les sujets. C'est que je lui ai posé la question avant de poser ma candidature pour savoir si c'était une bonne idée ou pas. On a mis un gros week-end pour réfléchir et ensuite, comme elle était plutôt enthousiaste, j'ai été voir mes beaux-parents. Après, une fois cet enthousiasme passé, il a fallu, un peu comme quand on élève des enfants, édicter des règles. C'est-à-dire que l'entreprise, on n'est pas la maison. Et donc, quand il y a un chef, on ne remet pas en cause devant les autres ce qu'il a dit.
C'est ce que Christian Lugian soulignait tout à l'heure, que vraiment, il fallait un patron, en tout cas, vraiment, il fallait un leadership fort et vraiment clairement défini, si l'on voulait déjà, enfin, en tout cas, il citait cela comme le paramètre pour qu'une entreprise familiale marche bien. Vous restez avec nous en ligne, Jean-François, parce qu'on va continuer justement à parler de l'évolution de cette collaboration, savoir si vos beaux-parents sont encore aujourd'hui présents dans les décisions, comment ça se passe avec votre femme, justement, est-ce qu'on laisse le travail vraiment lorsqu'on rentre à la maison le soir. On se retrouve pour raconter cette histoire juste dans quelques instants.
Oui, et en écho au témoignage de Jean-François qui a repris donc l'entreprise de sa belle-famille, il y a alors Danton, c'est le pseudo sur Twitter, je vais dire Danton. Quand tu intègres une entreprise familiale, tu entends un message qui n'est jamais verbalisé, tu ne feras jamais partie de la famille. Alors, est-ce que c'est vrai quand on est extérieur du clan familial et qu'on intègre cette entreprise? Est-ce qu'on est complètement intégré?
C'est un excellent message auquel Jean-François va pouvoir nous répondre dans quelques instants. Est-ce qu'au bout d'un moment, on fait partie de la famille?
Exactement.
Europe 1.
Vous composez le 39-21 pour témoigner également à votre tour. Le travail en famille, ce sont des avantages, mais aussi des inconvénients. Qu'en pensez-vous? Sur Twitter, vous nous écrivez hashtag Europe 1. Travailler en famille, est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Olivier Delacroix vous écoute sur Europe 1.
En tout cas, pour les Chédides, c'est une bonne idée.
Ouais, ils ont fait des tournées, des albums.
C'est plutôt une réussite.
Oui, le patriarche.
Et ça n'est pas fini, visiblement, puisque elle s'appelle Billy.
Billy, la fille de Mathieu Chédid, elle a 16 ans. Ouais.
Ça ne va pas s'arrêter chez les Chédides. Et à notre grand plaisir, d'ailleurs. Nous sommes toujours en ligne avec Jean-François, qui a repris l'entreprise de sa belle famille. Jean-François, votre belle famille est-elle encore présente dans les décisions importantes qu'on prend une ou deux fois dans l'année pour l'entreprise?
Alors, elle est toujours actionnaire, donc potentiellement elle peut prendre des décisions. Il n'y a aucun souci, bien au contraire. C'est aussi l'intérêt d'avoir des actionnaires qui ont fait le même métier, c'est qu'ils peuvent comprendre quelles sont les difficultés. On est dans le temps long.
Oui.
Contrairement à d'autres entreprises, on fait du profit à court terme. Là, on joue la pérennisation, on bâtit pour durer. Donc,
actionnaire
à ce titre.
Actionnaire à hauteur, actionnaire majoritaire ou parce que ça change beaucoup de choses?
Légèrement majoritaire. Mais
légèrement majoritaire, d'accord.
Oui. Mais cela dit, je crois que pour répondre à une question que vous posiez juste avant, c'est est-ce qu'on en fait partie ou pas de la famille quand on a repris une entreprise? Je crois que c'est on en fait partie avant et ça renforce les liens parce qu'en fait, tout ce qui ne tue pas rend plus fort et les expériences qu'on traverse nous renforcent avec la bienveillance en plus, qui n'est pas toujours le cas dans toutes les entreprises.
C'est ce que j'allais vous dire, parce que là, on sent dans vos paroles qu'il y a une complicité, une compréhension. On parle le même langage, votre belle famille et vous, dans les perspectives que vous envisagez pour cette entreprise, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, comme vous le dites. Est-ce que vos propres enfants travaillent dans l'entreprise?
Non.
Ils n'ont pas envie?
À ce stade, ça ne se pose pas.
C'est quelque chose que vous aimeriez, à un moment, entendre de l'un d'eux, que lui a envie de reprendre la suite?
Non, pas spécialement. Ni oui, ni non. C'est-à-dire que si une fois qu'ils auront fait leurs expériences, leurs premières expériences, ils en éprouvent l'envie et puis ils en ont les compétences, ils seront bien sûr les bienvenus. Mais je dirais que ce moment-là, pour l'instant, n'est pas du tout là. Ils ont choisi plutôt d'autres voies. Et je pense que tant qu'ils n'ont pas fait leurs propres expériences, ce serait dommage de les priver de voir autre chose. Mais s'ils le veulent, ils seront les bienvenus.
Alors, nous évoquions quelque chose avec Omblin, là, en off.
Oui.
On se disait qu'une entreprise de 250 personnes, Jean-François, c'est une grande entreprise. Ça veut dire que souvent, vous devez avoir des demandes de cousins, de cousines, en tout cas de personnes de la famille, hein, dans le cercle proche, ou même des cousins éloignés. Est-ce que vous vous méfiez justement d'embaucher des gens de la famille comme ça, de faire rentrer des gens dans cette entreprise qui font partie de la famille, mais qui sont un peu plus éloignés?
Alors, on n'en a pas tant que ça, mais mis à part... c'est un peu comme dans la relation qu'on a avec mon épouse, puisque maintenant on est les deux à la tête de l'entreprise. Il y a des règles, c'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est des gens compétents, des gens motivés. Et donc, ce qui s'applique à la famille s'applique également à des gens qui ne sont pas de la famille, et réciproquement. Mmh. Mmh. Donc, à partir du moment où les règles sont claires, si la personne est bien, il n'y a pas de souci. Si elle n'est pas bien, elle sera traitée comme un autre collaborateur. Parce que ça, c'est aussi une règle quand on a plus pas mal de salariés, c'est d'être exemplaire. Alors parfois, peut-être même jusqu'à l'excès, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il soit même presque plus parfait que les gens qui viennent de l'extérieur.
Vous avez eu à les rappeler, ces règles, lorsque vous êtes arrivé, parce que voilà, vous remplaciez votre beau-père, hein, à la tête de l'entreprise. Est-ce que c'est un des messages forts que vous avez dû faire passer ?
On a dû réédicter des règles de bonne marche entre les différentes personnes, même avec mon épouse, où je lui ai expliqué parfois qu'il fallait qu'elle se comporte d'une certaine façon, pas comme à la maison, pas pour l'embêter, mais simplement parce que il y a des moments où il faut marquer une séparation entre les deux.
Alors justement, cette séparation entre les deux, vous y arrivez bien depuis des années. Le soir, on parle de quoi à table?
On y arrive. Mais je ne vous cacherai pas que, et moi le premier, ou nos enfants de temps en temps nous ont rappelé à l'ordre en disant « bon, c'est bien, mais là maintenant on est à table et on ne parle pas de ça ». Donc ça nous arrive de déroger à la règle parce que les sujets s'y prêtent. Moi j'avoue que j'ai tendance à être un peu le garde-fou. En disant, je veux bien qu'on en parle, y compris en dehors de l'entreprise, mais pas n'importe quand.
Merci beaucoup Jean-François pour cette formidable histoire et votre beau témoignage, parce que on sent que vous êtes accompli, c'est très très positif
ça
d'entendre ce
oui.
type d'histoire, parce que ça fonctionne, hein, ces entreprises familiales. Il suffit de bien mettre les règles au début et de savoir qui fait quoi et comment et qui commande surtout. Mais enfin, ça c'est un peu pour tout pareil,
oui,
en fait.
Finalement.
Dans quelques instants, vous allez retrouver Laurence Boccolini, on va faire une petite conclusion cette fin d'émission, parce que travailler en famille, c'est possible, hein, on l'a vu, cela peut être un plaisir, parfois même une réussite, mais cela suppose d'être organisé, à l'écoute et de savoir faire des concessions. Chacun a ses compétences et il faut savoir les respecter. Travailler en famille semble donner une certaine rigueur, renforcer des valeurs, mais cela peut aussi rendre plus difficile l'arrivée dans un nouveau travail sans ses proches. Il faut y réfléchir et pour cela, on peut continuer à en discuter.
Bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous continuez d'échanger autant que vous en avez envie, hein, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Et puis vous retrouvez Olivier Delacroix et tous ses sujets. Bien sûr, toutes ces émissions sur Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des parents adolescents. Avoir un enfant très jeune est un parcours unique. Comment élever un enfant quand on sort à peine de l'adolescence? Si vous avez eu un enfant très jeune, par choix ou par accident, si votre enfant a eu un enfant très jeune, si vous êtes vous-même un très très jeune parent et que vous avez envie de nous raconter votre histoire, appelez-nous dès maintenant au 3921. Demain, à partir de 15h, nous vous écouterons, nous serons là. Ombline, j'ai été ravi
également
de passer cette heure à vos côtés. Et on se retrouve demain à partir de 15h.
Avec plaisir, Olivier Delacroix. Et dans un instant, vous l'avez annoncé, Laurence Boccolini, son invité Bernard Werber sur Europe 1.
Europe 1.